Bonjour à vous, merci de nous rejoindre sur VO Afrique émettant de Washington. Jacques Aristide pour vous accompagner dans le monde aujourd'hui, en ce jeudi 22 février 2024. À la une de l'actualité ce matin, présidentiel au Sénégal, accusé de traîner les pieds, le chef de l'État Macky Sall va parler ce soir. Le Conseil de sécurité de l'ONU sanctionne de hauts cadres de groupes armés opérant en RD Congo. Nouvelles frappes israéliennes contre Rafah dans la bande de Gaza, alors que de nouveaux pourparlers en vue d'une trêve ont lieu en Égypte. Ici aux États-Unis, le président Joe Biden se félicite d'avoir annulé la dette étudiante de près de 4 millions d'Américains. Au Sénégal, le président Macky Sall va prendre la parole ce soir pour dire quels sont ses plans en vue de la tenue de la présidentielle, dont la nouvelle date demeure inconnue. Le chef de l'État va être interrogé par 3 médias sénégalais, dont la radio-télévision publique. Hier, des candidats au scrutin l'ont accusé de mauvaise volonté. Nani Talani.
Une lenteur inexplicable est constatée. Rien n'a été entrepris malgré les développements de la semaine passée. Tout fonctionne au rythme de la mauvaise volonté du président Macky Sall, disent dans un communiqué commun les 15 signataires qui figurent sur une liste actualisée du Conseil constitutionnel des candidats à la présidentielle. Les 15 candidats accusent le président Macky Sall de refuser d'assumer sa mission d'organiser l'élection et annoncent sans précision une série d'actions visant à garantir la tenue du scrutin dans les délais impartis. Le collectif citoyen Ars Nous Élections, protégeant notre élection, réclame la tenue du scrutin avant le 2 avril, marquant la fin officielle du mandat de Macky Sall. Il a aussi annoncé un nouveau rassemblement samedi.
Le Conseil de sécurité de l'ONU vient de sanctionner 6 hauts cadres de groupes armés opérant dans l'est de la République démocratique du Congo, où les affrontements se sont intensifiés ces dernières semaines. Ils sont accusés d'avoir planifié, dirigé ou commis, de par leur rang élevé, des actes constitutifs de violation des droits humains ou du droit international humanitaire. Les sanctions consistent en un gel des avoirs, y compris en RDC, et d'une interdiction de voyage. Parmi les plus célèbres sanctionnés, Willing Goma, un porte-parole des rebelles du M23, connu pour ses vidéos où il se met en scène avec des militaires congolais ou burundais capturés au cours des combats. Sont également sanctionnés Michel Rakonda, dit Makanika, déserteur de l'armée congolaise et dirigeant du groupe armé Tiwaneho, le Rwandais Apollinaire Hakizimana du groupe FDLR, un Tanzanien et un Ougandais, tous deux dirigeants des ADF associés au groupe État islamique, et William Yakutumba, commandant d'une coalition de groupes armés génériquement appelée Mai Mai. Une envoyée américaine a dit hier encourager les dirigeants de la Somalie et de l'Éthiopie à désamorcer les tensions après un désaccord sur la conclusion par Addis Abeba d'un accord maritime avec le Somaliland. Michel Joseph.
Molly Fee, diplomate américaine pour l'Afrique, a rencontré séparément hier à Addis Abeba le premier ministre Abiy Ahmed, puis à Mogadiscio le président Hassan Sheikh Mohamud. La région ne peut pas se permettre de nouveaux conflits, a-t-elle déclaré, encourageant toutes les parties à désamorcer les tensions par le dialogue. Le Somaliland a autoproclamé son indépendance en 1991, mais n'a jamais été reconnu au niveau international. L'Éthiopie, qui a perdu son accès à la mer Rouge il y a 3 décennies avec l'indépendance de l'Érythrée, a signé le mois dernier un protocole d'accord avec le Somaliland pour louer sa côte pendant 50 ans, dans le cadre de sa recherche d'une base navale et d'un port commercial. La Somalie a protesté et a conclu mardi un accord de 10 ans avec la Turquie pour l'aider à défendre son littoral et à reconstruire sa marine.
En Libye, les différents groupes armés déployés à Tripoli pour y assurer la sécurité, mais dont plusieurs se sont affrontés ces derniers mois, vont devoir quitter la capitale libyenne, laissant la place aux forces régulières. C'est ce qu'a déclaré hier le ministre de l'Intérieur, Rosine Mounezero.
Après un mois de concertation, nous sommes parvenus à un accord avec les groupes de sécurité afin qu'ils quittent complètement la capitale prochainement. Il n'y aura plus que des agents de police urbaine, de police secours et se charger des enquêtes criminelles, a affirmé Imad Trabelsi, ministre de l'Intérieur du gouvernement d'unité nationale. Monsieur Trabelsi a cité plusieurs groupes armés, dont la Force de sécurité générale, la Force Al-Rada, qui contrôle l'est de Tripoli, la brigade 444 qui contrôle le sud de la capitale, la brigade 111 rattachée à l'état-major ainsi que l'autorité de soutien à la stabilité basée dans le quartier populaire d'Abu Slim à Tripoli. Apparus après la chute de Muammar Kadhafi en 2011, ces groupes influents et lourdement armés ne sont pas sous l'autorité directe des ministères de l'Intérieur ou de la Défense, même s'ils sont financés par des fonds publics. Ils sont parfois à l'origine d'affrontements violents jusque dans les zones résidentielles de la capitale libyenne.
Une nouvelle flambée de violence dans le nord du Mozambique, théâtre d'une insurrection djihadiste, a contraint des milliers d'habitants à fuir leur foyer. D'après l'ONU, entre les 8 et 20 février, quelques 13 000 personnes, majoritairement des enfants, ont fui en bus, en pirogue ou à pied. De récentes attaques dans la région de Cabo Delgado. Hier, le chef de l'État mozambicain, Philippe Niussi, a confirmé ces mouvements de population tout en assurant que les forces de sécurité garder le contrôle de la situation.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le chef de la diplomatie brésilienne a fustigé hier la paralysie qualifiée d'inacceptable du Conseil de sécurité de l'ONU face au conflit à Gaza et en Ukraine lors d'une réunion des ministres des Affaires étrangères du G20 au Brésil. Jean-Roger Billon.
Les institutions multilatérales ne sont pas suffisamment équipées pour faire face aux défis actuels, comme l'a montré l'inacceptable paralysie du Conseil de sécurité au sujet des conflits en cours. Cette inaction implique directement la perte de vies humaines, a déclaré le ministre Mauro Vieira lors de son discours d'ouverture de la réunion à Rio de Janeiro. Le Conseil de sécurité a été incapable de réagir face à l'invasion russe de l'Ukraine en raison du veto russe, et a peiné à parler d'une seule et même voix sur Gaza, les États-Unis bloquant tout appel à un cessez-le-feu. Le Brésil est profondément inquiet de la situation internationale actuelle en ce qui concerne la paix et la sécurité, a-t-il insisté. Selon lui, le G20 peut jouer un rôle fondamental dans la réduction des tensions internationales et dans les progrès d'un agenda de développement durable.
Justement, Israël a mené cette nuit de nouvelles frappes aériennes contre Rafah au moment où démarre au Caire. De nouveau pour parler compliqué en vue d'une trêve dans la bande de Gaza, le conseiller du président américain Joe Biden pour le Moyen-Orient, Brett McGurk, est attendu en Israël aujourd'hui après une étape en Égypte. « Nous voulons qu'un accord soit trouvé le plus rapidement possible », a dit hier Matthew Miller, le porte-parole du département d'État. Le chef du bureau politique du Hamas, Ismail Haniyeh, établi au Qatar, se trouve actuellement au Caire. Hier, le Parlement israélien a massivement voté une résolution proposée par le Premier ministre Benjamin Netanyahou contre toute reconnaissance unilatérale d'un État palestinien qui reviendrait, selon le texte, à récompenser le terrorisme sans précédent du Hamas. Le vote intervient quelques jours après que le Washington Post a indiqué que les États-Unis et plusieurs pays arabes alliés travaillaient à un plan global destiné à établir une paix israélo-palestinienne durable après la fin de la guerre entre Israël et le Hamas et prévoyant notamment un calendrier pour l'établissement à terme d'un État palestinien. United Airlines a fait état hier de la reprise de ses vols vers Israël à partir du mois prochain, devenant la première compagnie aérienne américaine à effectuer un tel retour depuis l'offensive du Hamas sur Israël le 7 octobre. La compagnie prévoit de premiers vols vers Tel Aviv depuis son hub de Newark, près de New York, les 2 et 4 mars, avec pour objectif de restaurer son planning de vol quotidien dès le 6 mars. Joe Biden a fait part hier d'une nouvelle mesure d'effacement de dette étudiante en se félicitant d'avoir au total annulé les créances de ce type pour près de 4 millions d'Américains. Selon le décompte de son administration, le président américain a effacé au total 138 milliards de dollars de prêts depuis son arrivée à la Maison Blanche. revanche, trop d'Américains doivent toujours faire face à des dettes insurmontables en échange d'un diplôme universitaire, a déploré Joe Biden, candidat à un second mandat lors d'un discours en Californie. Lorsque l'on soulage les Américains de leurs dettes étudiantes, ils sont libres de poursuivre leurs rêves, a-t-il encore déclaré. La police de Los Angeles a publié une vidéo d'une intervention qui a mené à la mort d'un homme tenant un fourchon en plastique après une confrontation avec plusieurs agents dans un immeuble de la ville. Jason McCanny, 36 ans, a été tué le 3 février par un policier. Une enquête a été ouverte pour déterminer si l'usage de la force était approprié et la police a rendu public mardi les images de l'intervention. Le Conseil de l'Europe appelle à mettre fin à la répression envers les ONG et individus qui défendent les droits des migrants. Dans une recommandation publiée hier, le Conseil fustige ce qu'il appelle une tendance croissante à harceler et à intimider et à considérer comme des délinquants les personnes et les groupes qui aident les réfugiés, les demandeurs d'asile et les migrants. La ministre argentine des Affaires étrangères, Diana Mondino, a exprimé hier son mécontentement à son homologue britannique, David Cameron, pour sa récente visite aux îles Malouines, en marge d'une réunion du G20 à Rio de Janeiro. Madame Mondino a réaffirmé les droits de souveraineté de la République argentine sur le territoire. Un avion de la compagnie American Airlines à destination de Chicago a dû retourner à son aéroport de départ dans l'État américain du Nouveau-Mexique après que l'un de ses passagers a tenté d'ouvrir la porte en plein vol. Une vidéo montre d'autres passagers empêchant l'homme d'ouvrir la poignée d'une des portes de sortie. L'Agence américaine de régulation de l'aviation civile indique mener une enquête sans dire davantage sur l'incident. Et voilà donc pour le journal. Sans plus tarder, quelques nouvelles économiques. La Minute Éco avec Nani Talani.
Au Nigeria, les chauffeurs de camions-citernes ont mis fin à une grève pour protester contre la hausse des coûts d'exploitation après avoir convenu d'une augmentation des frais de transport avec les distributeurs de carburant à l'issue de négociations, a déclaré mercredi un responsable syndical. Ces chauffeurs exigent une hausse des frais de transport en raison de l'augmentation des coûts opérationnels et de l'état des routes du pays. Le Burkina Faso a suspendu la délivrance de permis d'exportation d'or artisanal et semi-mécanisé et d'autres produits précieux avec effet immédiat pour assainir le secteur et mieux organiser la commercialisation de l'or et d'autres substances précieuses. Les groupes miniers qui ont du matériel à exporter sont invités à s'adresser à la Société nationale des matières premières précieuses pour obtenir une compensation. Jusqu'à 30 tonnes d'or sont extraites de matières artisanales au Burkina, impliquant environ 1 million de personnes, indique un communiqué. Pour terminer, l'Afrique du Sud a annoncé une augmentation des taxes selon son budget annuel présenté au Parlement, mais il n'y aura pas de révision du barème de l'impôt sur le revenu malgré une forte inflation, ce qui induira une hausse des impôts pour certains foyers.
Et maintenant les sports. Bonjour Yacouba Ouidraougou.
Bonjour Jacques, bonjour à tous.
Percy Tau de retour dans son club d'Al Ahly d'Égypte.
Oui, c'est ce que nous apprend le site en ligne Africa Top Sports, qui précise que l'ailier sud-africain s'est entraîné avec le reste de ses coéquipiers lundi et mardi au complexe Al Ahly à Gezira. Percy Tau et ses camarades préparent leur voyage au Ghana pour le choc de la Ligue des Champions contre le Medeama SC. La star des Bafana Bafana a aidé son pays à occuper la 3e place de la CAN en Côte d'Ivoire. Les derniers vainqueurs de la Ligue africaine des champions jouent vendredi à Kumasi au stade Baba Yara Sports. Ils sont présentement premiers du groupe D avec 6 points. Les Ghanéens de Medeama SC, eux, sont derniers avec 4 points pris en 4 journées.
Cette triste nouvelle à présent, une joueuse zambienne décède en plein rassemblement.
L'attaquante de l'équipe nationale de la Zambie, Nourine Bethany, qui faisait partie des joueuses retenues pour le match contre les Black Queens du Ghana, est décédée mercredi. L'annonce a été faite par la Fédération zambienne de football dont le secrétaire général Ruben Kamanga explique que la joueuse s'est présentée au camp alors qu'elle était malade et a été emmenée vers l'hôpital le plus proche pour un examen approfondi sur recommandation des médecins. Bethany a été ensuite dirigé vers l'hôpital universitaire lundi et était sous soins médicaux jusqu'à sa mort, précise l'instance, ajoutant que la joueuse avait été diagnostiquée de paludisme. L'équipe zambienne est arrivée au Ghana hier et va affronter les Black Queens vendredi dans le cadre du match aller de l'avant-dernier tour des éliminatoires des JO Paris 2024.
Suite et fin hier des matchs allés des huitièmes de finale de la Ligue des Champions en Europe.
Naples et Barcelone se sont neutralisés un but partout avant le match retour à Barcelone. Lors d'un match fermé, le Barça a ouvert le score à l'heure des jeux par le buteur polonais Robert Lewandowski. Mais le Nigérian Victor Osimhen, ballon d'or africain revenu de la CAN, a égalisé grâce à un bel enchaînement à la 75e minute. Dans l'autre match, étincelant et prolifique en Première Ligue, Arsenal s'est fait surprendre dans le temps additionnel à Porto, 1-0. Auteur de 21 buts lors de ses 5 derniers matchs, le club anglais n'a cette fois pas su trouver la faille face à des Portugais solides et plus entreprenants qui ont fini par marquer sur le fil par Galeno à la 94e minute de jeu. Les Gunners devront se ressaisir le 12 mars à Londres s'ils veulent rallier les quarts pour la première fois depuis 14 ans.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Un grand merci de votre fidélité à VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, Jacques a resté toujours au micro. Il est l'heure maintenant de vous proposer la tranche magazine. Nous vous le disions un peu plus tôt, accusé par des candidats à la présidentielle au Sénégal de mauvaise volonté, le chef de l'État Macky Sall prendra la parole ce jeudi pour dire quels sont ses plans en vue de la tenue du scrutin dont le report a été invalidé par le Conseil constitutionnel. Pendant ce temps, la libération d'opposants en détention se poursuit, mais le statu quo demeure pour Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye. Hier toutefois, Maître Ndiaye Demba Touré, un proche collaborateur des deux hommes politiques, a été arrêté et envoyé en prison. Le reportage de Wahani Johnson Sambou, notre correspondant à Dakar.
La joie du retour au Bercail n'aura duré que 4 jours. Accueilli triomphalement dimanche après un exil de 8 mois au Mali, Ndiaye Demba Touré a été arrêté par la police. Il a ensuite été envoyé en prison après une audition express. Le coordonnateur des jeunes de PASTEF, le parti dissous, rejoint en prison son leader Ousmane Sonko. Son dauphin Bassirou Diomaye Faye, candidat à la présidentielle, a été mardi au centre d'une conférence de presse de la ministre sénégalaise de la Justice. Interrogé sur une éventuelle libération de l'opposant et sa participation au dialogue national, Maître Issa Tatal Sall s'en remet aux décisions de la justice.
Est-ce que Bassirou Diomaye Faye ira au dialogue? Il y a 2 conditions à cela, qu'il soit libre et qu'il accepte. Ce n'est pas parce qu'on est en prison que tout de suite on doit dire oui, je vais être libéré. Les procureurs apprécient au cas par cas.
La ministre était surtout attendue sur le dossier Ousmane Sonko, dont une frange de la société civile et des médiateurs réclament la libération. Maître Aïssa Tatal Sall a esquivé le sujet. Le journaliste Amadou Barry, qui a assisté à la conférence de presse, dit comprendre la posture de la garde des Sceaux et du leader de l'ex-PASTEF.
Sur Diomaye Faye, moi j'étais un peu plus ou moins satisfait. La réponse servie, à mon avis, tient la route, c'est-à-dire que Bassirou Diomaye Faye pourrait être libéré, mais être candidat n'est pas une garantie pour être libéré. Maintenant sur Ousmane Sonko, je pense que le gouvernement est dans son rôle. Déjà, on a annoncé les couleurs avec la vague de libération. Il faut y aller pas à pas. Pour moi, Sonko joue un peu le rôle de meneur d'hommes. Avant d'être libéré moi-même, je voudrais que mes troupes soient libérées.
La vague de libération entamée jeudi dernier va se poursuivre. Un premier lot de 344 prisonniers ont déjà été relâchés. Un autre lot de plus de 250 devrait suivre, a annoncé la ministre de la Justice. Et les partisans d'Ousmane Sonko espèrent voir leur leader dans ce dernier groupe. Wahani Johnson Sambou, Dakar, pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Le rapatriement des réfugiés burundais qui vivaient au Rwanda depuis 2015 a débuté hier. L'ONU indique que cette opération va se poursuivre malgré les tensions entre le Rwanda et le Burundi. De Kigali, le reportage de Jean Damascène Manishimwe.
Ils sont environ une centaine de réfugiés burundais qui ont quitté volontairement le Rwanda pour regagner leur pays. Ils ne cachent pas leur joie de regagner le bercail.
Cette décision est volontaire. Personne ne m'a forcé. On était à l'aise au camp, mais je jugeais bon de regagner mon pays pour rejoindre ma famille, ma femme et mes enfants.
Nous avons été bien traités au Rwanda. Nous vivions comme des frères et sœurs. Nous étions bien logés dans des abris convenables. Nous sommes vraiment satisfaits.
On était bien sécurisés. Nous avons été bien accueillis et nous sommes ravis de retourner chez nous en paix.
Ce rapatriement des réfugiés burundais intervient alors que le Burundi a décidé de fermer sa frontière avec le Rwanda en janvier dernier. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés rassure que malgré ce climat, il va continuer à faciliter le retour des réfugiés burundais dans leur pays.
L'OACR facilite le rapatriement et continuera de le faire selon la volonté des réfugiés. Nous ne forçons personne. Nous sommes ravis de les aider et de faciliter leur rapatriement.
Malgré ce climat tendu entre le Rwanda et le Burundi, ce dernier accusant son voisin de soutenir les rebelles burundais d'Oreille Tabara, le gouvernement du Rwanda rassure les Burundais qui sont au Rwanda quant à leur sécurité jusqu'au retour dans leur pays. Alain Mukuralinda est le porte-parole adjoint du gouvernement rwandais.
La population du Burundi au Burundi qui sont au Rwanda, qui reste tranquille, il n'y a aucun problème avec les Rwandais. Le gouvernement rwandais ne va pas les expulser. S'ils veulent rester ici, ils peuvent rester ici. Leur sécurité sera assurée. Mais s'ils veulent également repartir dans leur pays, le gouvernement rwandais va les aider pour y aller et arriver en paix dans leur pays. La seule chose que le gouvernement rwandais peut faire, c'est d'espérer que le gouvernement du Burundi revienne à la raison et que les négociations et que les pourparlers qui étaient en cours puissent continuer.
Actuellement, le Rwanda accueille environ 40 000 réfugiés burundais après les violences post-électorales au Burundi en 2015. Il cohabite dans un camp avec plus de 60 000 réfugiés congolais. Jean Damascène Manishimwe pour VOA Afrique. Kigali.
VOA Afrique, à Kigali, au Rwanda, sur 104.3, 24 heures sur 24.
L'économie de la République démocratique du Congo se porte bien, à croire à son chef de l'État, Félix Tshisekedi. C'est du moins ce qu'il a laissé entendre dans son discours sur l'état de la nation en novembre dernier. Mais des voix se demandent si cette bonne santé économique est en train d'améliorer la vie des Congolais ou si ce sont au contraire des investisseurs étrangers qui sont plus à même d'en tirer profit. Pour un éclairage, Antoine Roger Bolamba s'est entretenu avec le professeur Hamed Ousseini, spécialiste en droit des affaires basé à Kinshasa.
Bon, les études démontrent que l'économie nationale semble bien se porter, les paramètres sont au vert, voilà, il y a une légère croissance, il y a la maîtrise du cadre macroéconomique, c'est bien de développer toutes ces théories. Mais quand on observe de près l'état actuel de l'économie de la République démocratique du Congo, vous allez effectivement vous rendre compte que même s'il y a une légère croissance, même s'il y a la maîtrise du cadre macroéconomique, on se pose la question à qui réellement profite cette croissance. Je pense que la croissance ne profitera qu'aux détenteurs de capitaux. La maîtrise du cadre macroéconomique ne profitera qu'aux détenteurs de capitaux. Or, aujourd'hui, quand on observe de près l'état de l'économie du pays, quand on observe de près, on constate que tous les capitaux, si pas la majorité des capitaux qui existent dans ce pays, n'appartiennent qu'aux étrangers. Le premier exemple, c'est par exemple dans le secteur bancaire. Dans tout le pays du monde, le secteur qui finance les activités du développement, c'est le secteur bancaire. Mais aujourd'hui, je ne peux pas dire qu'au Congo, il n'existe pas des banques, il existe effectivement des banques, mais toutes les banques qui existent en République démocratique du Congo n'appartiennent qu'aux étrangers. Aucune banque qui opère aujourd'hui en République démocratique du Congo n'appartient ni à l'État congolais, ni aux Congolais en tant que particulier. Parce que s'il faut que je puisse aller encore un peu plus en détail, vous allez constater avec moi que la plus grande banque qui existe dans ce pays s'appelle Equity Bank. Avant, on l'appelait Procrédit, aujourd'hui, on l'appelle Equity Bank. C'est une propriété des Kenyans.
Professeur, parce que je pense qu'il y a toute une liste de ces banques qui appartiennent aux étrangers, mais pouvez-vous terminer en nous disant un tout petit peu pourquoi cette réalité-là?
Il est plus qu'impérieux aujourd'hui que la République démocratique du Congo définisse sa politique sectorielle en matière économique. Il faudra que nous puissions réfléchir aujourd'hui en République démocratique du Congo, c'est quoi les Congos que nous voulons dans 5 ans? C'est quoi les Congos que nous voulons dans 10 ans? C'est quoi les Congos que nous voulons dans 50 ans?
Vous voulez dire, professeur, qu'il n'y a pas de politique dans le secteur secteur économique en République démocratique du Congo aujourd'hui?
Il y a une politique économique, mais je pense que nous devons nous pencher pour sa réflexion. Parce que s'il existait réellement une politique efficace et confrontée à la réalité, je pense que, après avoir fait ce diagnostic, je pense qu'il nous faut vraiment une thérapie de choc. Et cette thérapie de choc ne peut être mise en exécution que si et seulement si les paramètres sont encore redéfinis en République démocratique en matière économique. Parce que tous les secteurs aujourd'hui sont entre les mains des étrangers.
Le professeur Hamed Ousseni, spécialiste en droit des affaires, était en ligne de la capitale congolaise.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Goma, c'est sur 96.2 FM en République démocratique du Congo.
2 ans après le début de l'invasion russe de leur pays, les Ukrainiens affirment qu'avec les combats intenses sur le front de l'Est et les bombardements quotidiens à travers l'Ukraine, ils ont besoin urgemment d'un soutien militaire et financier de la part de la communauté internationale. Le Congrès américain est toujours bloqué pour ce qui est de l'aide à l'Ukraine. De Kiev, le reportage de Miroslava Gongadze, chef du bureau Europe de l'Est de la VOA, le récit est de Rosine Mounezero.
Quelques jours avant le 2e anniversaire de l'invasion russe, l'Ukraine a décidé de se retirer d'Avdivka, une ville de la région de Donetsk. La Maison-Blanche a imputé cette décision à l'incapacité du Congrès à fournir une aide supplémentaire, déclarant que les Ukrainiens continuent de se battre courageusement, mais qu'ils manquent de matériel. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est exprimé lors de la conférence de Munich sur la sécurité le jour du retrait.
Do not ask.
Ne demandez pas à l'Ukraine quand la guerre sera terminée. Demandez-vous plutôt pourquoi le président russe, Vladimir Poutine, est encore capable de la poursuivre.
Les Ukrainiens vivent mal la situation et se préparent à une guerre prolongée. Olga Rudenko, rédactrice en chef du Kiev Independent, était à son bureau lorsque l'invasion a commencé en février 2022. Elle était prête lorsque le président russe Vladimir Poutine a terminé son discours la veille de cette invasion.
Nous avons préparé un article disant que Poutine avait annoncé la guerre contre l'Ukraine. Et quand il a cessé de parler, nous l'avons publié. C'est à ce moment-là que nous avons entendu des explosions.
2 ans après, la guerre continue. The Kiev Independent est devenue la principale publication en langue anglaise à rendre compte de l'évolution de la situation sur le terrain. Olga Rudenko, rédactrice en chef de Kiev Independent.
Il est très frustrant d'être ici en Ukraine et de voir toutes les nouvelles concernant le Congrès américain qui n'est pas en mesure de voter en faveur du programme d'aide à l'Ukraine. Parce que pour eux, il ne s'agit peut-être que d'un chiffre, mais pour nous, il s'agit de vraies vies et de vraies personnes.
Volodymyr Omelian, major des forces armées ukrainiennes, revient sur l'état d'esprit des Ukrainiens.
Nous devenons beaucoup plus forts par les armes, par les gens. Et il est certain que ce n'est pas une croisière. Et ce n'est pas comme si la guerre allait se terminer dans 2 ou 3 semaines ou très bientôt. Cela prendra du temps, malheureusement, mais le moral reste très élevé. S'il n'y a pas de volonté, il n'y a pas de victoire. Et dans notre cas, la volonté est forte.
À Kiev, les gens espèrent que cette guerre prendra fin.
Je veux voir ma mère et mon père, ils sont à l'étranger. Je suis ici parce que je ne peux pas aller les voir.
Nous avons peur tous les jours, toutes les nuits. Nous voulons la paix dans notre pays. Nous voulons arrêter Poutine et regagner notre territoire.
Ce sera une longue guerre. Je me sens terriblement mal. L'Ukraine ne pourra pas gagner contre ce grand ennemi sans la communauté internationale.
Les Ukrainiens qui ont parlé à la VOA espèrent également que le monde comprendra qu'ils se battent pour des valeurs démocratiques communes et qu'ils ont besoin d'aide.
Abdourahmane Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, l'Union africaine face aux multiples crises qui secouent le continent. Le nouveau président de l'organisation, le Mauritanien El Ghazouani, a appelé au retour de la sécurité et de la stabilité, ainsi qu'au renforcement de la coopération entre pays membres.
Le 37e sommet s'est tenu dans un contexte de coup d'État, de crise politique comme au Sénégal, ainsi que de tensions entre pays comme celle entre la RDC et le Rwanda, ou encore l'Éthiopie et la Somalie. Quelle feuille de route pour l'Union africaine en 2024? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voafrique.com en rediffusion samedi et dimanche.
Et voilà, Le Monde aujourd'hui, édition matinale du jeudi 22 février 2024 prend fin ici. La mise en onde a été assurée par Fatouma Kalala Alimassi. Merci, chers amis fidèles de la VOA, de nous avoir accueillis chez vous ce matin. Jacques Aristide, depuis la capitale américaine, je vous souhaite une très belle journée. S'il vous plaît, prenez bien soin de vous et des autres aussi. À très bientôt. Au revoir.